France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Ça fait un moment qu'Emmanuel Macron essaye de préparer les esprits. Vous avez un souvenir lointain des vœux aux armées, c'est normal. Mais l'idée d'un retour, d'une forme d'engagement était déjà là. Et puis, l'allocution du 14 juillet, l'idée d'une transformation du service national universel était plus que dans l'air. Et comme s'il fallait au fond infuser dans la société cette idée d'un danger potentiel, une guerre jamais exclue, et que désormais nous ne pouvions pas faire comme si rien ne pouvait nous arriver. Donc l'annonce d'un service militaire volontaire, mais militaire, n'est pas vraiment une surprise. Ce qu'il a plus été, c'est la sortie très commentée du chef d'état-major des armées la semaine précédente, parlant d'un pays qui doit retrouver sa force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est, fermer les guillemets, et accepter, ouvrir les guillemets aussi, de perdre ses enfants. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est votre idée à vous de l'engagement, et c'est notre idée à tous du pays et de la nation. On va pas sombrer dans la caricature de la chair à canon, parce que c'est pas du tout ça dont on parle, mais quelle est dans ce pays notre relation à l'armée, notre relation au danger? Faut-il nous préparer à un danger? Je suis moi de la génération, comme beaucoup d'entre vous peut-être, qui a eu 20 ans en 1989. Avec des amis, on a pris le bus, on est tous allés à Berlin faire la fête des deux côtés du mur, et on pensait qu'on avait gagné, que la démocratie désormais était contagieuse et inéluctable. La suite nous a prouvé à quel point nous nous sommes trompés. La génération qui a 20 ans aujourd'hui, c'est celle des guerres aux portes de l'Europe, c'est celle aussi peut-être d'un pays, l'Ukraine, qui a vu se lever sa population quand la Russie pensait l'écraser en 3 jours. On va donc aussi nous interroger sur cette question. Est-ce qu'une opinion publique est une arme de dissuasion? Est-ce qu'il y a tout ça, au fond, derrière un service militaire volontaire? C'est le téléphone sonne, mes amis, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez, la première question, je la prends dans ma voix, elle nous arrive de WhatsApp, c'est celle de Thibault, et elle dit ceci. Comment cette annonce peut-elle avoir un impact face à la menace si le président indique que les jeunes prêts à s'engager ne seraient pas appelés sur le front des affrontements potentiels? Voilà ce que nous dit notre ami Thibault, et qui nous apprend beaucoup de choses sur la manière dont les gens ont perçu l'annonce d'Emmanuel Macron. Pour en discuter ensemble jusqu'à 20h autour de la table, il y a Adélaïde Zulfi-Karpazic. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale du pôle société d'Ipsos BVA. Vous avez écrit avec Anne Muxel aux éditions de l'Aube, c'était en 2022, mais ça tient vraiment toujours, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Français sur le fil de l'engagement. Il y a Romain Miel-Carrec, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste des questions de défense et chercheur à l'IPJ Paris-Dauphine. Et Jean-Michel Jacques est là également, bonsoir. Vous êtes député Ensemble pour la République du Morbihan. Vous êtes le président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Au fond, c'est à vous que je vais poser la question d'abord. Jean-Michel Jacques, quand on voit la question de Thibault qui dit « Mais enfin, comment voulez-vous lutter contre la menace si on dit déjà aux jeunes qui vont s'engager que c'est pas pour le front qu'ils vont ?» Ça donne quand même une idée de la manière dont ils reçoivent ce genre d'annonce. Ils l'associent immédiatement à « s'engager, c'est aller faire la guerre ».
Oui, mais c'est une erreur parce que l'engagement n'est pas fait pour ça. L'engagement est fait pour améliorer la résilience de notre pays. Et d'ailleurs, il a différentes formes d'engagement. Il existe déjà des engagements très forts. Et je pense, par exemple, à nos pompiers volontaires, aux gens qui s'engagent dans la Croix-Rouge, qui sont volontaires pour faire des activités dans la protection civile, dans les protections communales aussi, dans les réserves communales de sécurité communale. Il y a, en fait, l'engagement à multiples formes, et c'est pas pour faire la guerre. C'est pour renforcer, en tout cas, l'outil de défense qu'a notre nation, c'est-à-dire nos armées.
Ça veut dire quoi, améliorer la résilience? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à donner une définition? Est-ce que vous pouvez nous définir, Romain Miel-Carrec, ce que c'est qu'améliorer la résilience d'un pays aujourd'hui?
C'est exactement ce que dit le chef d'état-major des armées la semaine dernière. Mmh. C'est-à-dire que si le pays, la nation, encaisse des coups, il s'agit de pouvoir s'en relever le plus vite possible. Je voulais juste rebondir sur cette question de est-ce que ça peut être dissuasif de mobiliser plus de gens en disant on ne les enverra pas sur le front.
C'est pas tant les mobiliser, c'est d'avoir un discours qui mêle la nation et l'armée, en fait. Est-ce que ça parle à nos ennemis potentiels?
Et c'est là où, justement, dans l'affrontement rhétorique entre la Russie et les démocraties européennes, on va pas viser le même adversaire. Mmh. Les Russes visent massivement les opinions publiques européennes parce que c'est là qu'est le centre de décision, c'est là qu'il faut faire vaciller la détermination, alors que les Européens, eux, vont viser les dirigeants. russe. Ils vont pas chercher à faire peur à l'opinion russe qui de toute façon ne nous entend pas. Mais les dirigeants, eux, ils savent très bien que si on commence à prendre l'habitude de former même assez simplement quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers à l'échelle européenne de militaires, et ben ça augmente d'autant les effectifs potentiels de ce qu'ils auraient en face d'eux s'ils décidaient de passer à l'action.
C'est ça, résilience. Peut-être que ce que je comprends, moi, vous allez nous aider peut-être à Zulfi Karpazic là-dessus, avec ce que vous savez des jeunes que vous avez pu interroger et que vous interrogez sûrement encore, et pour rebondir sur ce que dit Romain Mielkarek, la manière dont la Russie nous attaque aujourd'hui, pas directement, si je puis dire, c'est la désinformation, c'est cette espèce de guerre hybride, c'est la guerre informationnelle, c'est tout ça. Et on se dit au fond qu'elle doit être là, notre résilience, et que peut-être que ces jeunes-là, c'est avant tout à ça qu'ils servent. Quant à vous, ils parlent d'engagement. Ils vous parlent de quel type d'engagement, en fait? Est-ce qu'ils vous disent s'engager comme on s'engageait à l'époque et comme on faisait son service obligatoire? Est-ce qu'ils perçoivent aussi différentes formes qui peuvent être celles que je viens de citer?
Alors, il y a deux éléments de réponse à votre question. La première, c'est que effectivement, les jeunes sont à l'avant-garde d'un mouvement de transformation de l'engagement qu'on observe depuis maintenant plusieurs années. Ce mouvement, il est à la fois, c'est un rétrécissement un peu spatio-temporel, si je puis dire, de l'engagement. Avant, on s'engageait dans la durée pour une cause d'une vie. Aujourd'hui, on s'engage sur une durée plus courte et on s'engageait pour une cause collective. Aujourd'hui, on s'engage plus pour quelque chose qui nous touche personnellement. Donc, il y a une transformation de l'engagement, il y a une transformation des formes de l'engagement, et effectivement dans ces formes de l'engagement qui sont de plus en plus individuelles, les jeunes là aussi sont à la pointe puisqu'ils vont être plus nombreux à s'engager notamment via les réseaux sociaux. On peut discuter de est-ce que c'est vraiment un engagement, mais en tout cas ils vont voilà partager des avis, republier, alerter, etc. Donc effectivement j'ai envie de vous répondre oui, les jeunes sont effectivement dans cette transformation de l'engagement et donc des formes aussi de riposte qu'on peut avoir à ce que vous évoquiez en parlant presque de propagande russe entre guillemets, mais en même temps ces mêmes jeunes nous disent que ils adhèrent plutôt à l'idée d'un service militaire. Ils sont prêts. On a posé la question dans l'ouvrage que vous citiez avec Anne Muxel il y a maintenant 2 ou 3 ans.
Très étonnamment, des pourcentages qui sont assez hauts.
Exactement. Les jeunes, comme les Français et un tout petit peu moins, nous disaient oui, je suis prêt à m'engager pour défendre mon pays et je suis même prêt à m'engager pour mourir pour mon pays. Alors on était à un Français sur deux, 40% à peu près des plus jeunes, mais donc c'est pas seulement, c'est aussi cet engagement tel qu'il existait à l'époque. Et j'aimerais juste, pour terminer, je pense que cette juxtaposition des deux formes d'engagement un peu plus traditionnelles et un peu plus modernes, elle tient aussi au fait que cette génération, ces jeunes dont on parle, vous l'avez dit un peu en introduction, c'est la génération effectivement qui grandit avec la guerre aux portes de l'Europe, qui a grandi aussi avec le Bataclan. C'est des jeunes qui avaient 10 ans en 2015 et qui ont grandi avec cette idée qu'il faut protéger notre territoire.
C'est la question que j'allais vous poser, Jean-Michel Jacques. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est effectivement dans une génération qui a fait le deuil de la paix, en fait, contrairement à la nôtre, ou qui doit faire le deuil de la paix si elle doit le faire? Est-ce que c'est ça aussi, au fond, le message qu'on envoie quand on réinstaure doucement un service militaire? Est-ce que le message subliminal, en quelque sorte, c'est quelque chose qui dit il faut de toute façon faire le deuil de la paix?
Oui, mais en fait, il faut regarder tout simplement le monde qui nous entoure avec lucidité et de façon froide. Et si on l'analyse, et on le voit bien que tout ce que l'on observe, nos services de renseignement, la réalité de l'actualité, on est dans un monde qui est déstabilisé sous le plan géostratégique, sur le plan sociétal aussi, d'ailleurs. Et ça, nos jeunes ne le ressentent. Et effectivement, c'est une génération qui a vécu dans le terrorisme à travers les événements du Bataclan, effectivement, et puis qui ont connu aussi le Covid, la crise du Covid, qui est une forme aussi d'agression face à une nation, qui sous forme sanitaire, mais ça reste une forme d'agression. Et donc, c'est une génération qui se rend compte des dangers et qui ne veut pas se laisser juste subir, mais qui veut participer.
Il y a quelque chose qui me frappe, Romain Mielkarek, qu'on retournera au standard dans un tout petit instant, juste après. Au fond, c'est le vocabulaire, en fait. J'ai l'impression que pendant très longtemps, on a sorti le mot guerre de notre vocabulaire, et pour autant, il y en avait, et même la France a été déployée. Il y a des soldats qui sont morts ces 10 et ces 20 dernières années. Il y en a même un certain nombre. On a parlé d'opérations extérieures, on a parlé de crises ici et là. C'est comme si, depuis quelques temps, peut-être que le marqueur, c'est 2015, mais peut-être qu'il y en a un autre, peut-être que c'est beaucoup plus récent et c'est 2022, mais comme si subitement, on remettait guerre dans notre vocabulaire.
Alors, je suis forcément un peu biaisé, parce que moi, j'ai fait toute ma carrière en travaillant sur ces sujets, donc ça a toujours été omniprésent dans mon quotidien. La République française est une République fondamentalement guerrière et militaire. Elle a systématiquement, au moins depuis la fin de la guerre froide, été engagée militairement dans toutes sortes de conflits et d'affrontements. Et juste pour rappeler quand même les chiffres, avant qu'on parle même de ce dont on est en train de parler aujourd'hui, les armées, c'est 200 000 personnes. Vous rajoutez à peu près 40 000 réservistes. L'industrie de l'armement, donc ceux qui fabriquent les armes, c'est encore plus de 200 000 personnes. Mmh. Donc juste les gens qui vivent de la guerre en permanence au quotidien en France, c'est 1 million de personnes. Vous rajoutez tout l'écosystème autour, les familles, les villes, etc. Tout ça fait partie de notre quotidien. Mais effectivement, on n'en parlait pas, on ne regardait pas ces sujets-là pendant longtemps. Alors, quand il y a le Bataclan, on se met à en reparler un petit peu, et puis ça redescend rapidement. 2022, tout d'un coup, tout le monde redécouvre ces réalités pendant un an à peu près, où tout le monde est un peu inquiet, et puis pareil, on reprend l'habitude.
Laissez-moi reprendre une activité.
Là, on en reparle ces jours-ci. Je ne sais pas si dans un mois, on sera toujours aussi préoccupé par ces questions-là.
Retour au standard, c'est Christophe qui nous y attend. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Christophe.
Alors, on entend en fait que l'armée ne servirait pas à faire la guerre, mais c'est quand même le but premier de l'armée, hein, soi-disant la défense. Il y a que des armées pour défendre, et bizarrement, il y a des guerres. Et moi, ce que je voulais savoir, en fait, c'est le coût que ça pourrait représenter. On nous a parlé de 3 000 engagés volontaires. Est-ce que c'est réellement 3 000? Est-ce que ça pourrait être plus? Combien ça pourrait coûter? Et puis, il y a d'anciennes casernes conservées. Est-ce qu'elles sont encore en état? Est-ce qu'il faudrait rénover les bâtiments? Pour quel coût?
Merci beaucoup, Christophe, pour vos questions. On peut y répondre l'une après l'autre. D'abord, le coût?
Alors, le coût, une évaluation a été faite, en tout cas pour les premières années, sachant qu'on va commencer par 3 000 volontaires, hein, donc au début, mais ça irait dans les 2 milliards 3 à peu près de 2026 à 2030. Hein.
Après 10 000, 50 000, après, ça monte très haut, voilà, en fait, ça monte très vite, hein, plutôt dans...
Donc dans un premier temps, ce qui est tout à fait raisonnable pour un budget quand même de la nation, sachant que c'est le sujet le plus régalien, qui est quand même la défense d'un pays, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de pays, il n'y a pas de nation, il n'y a même pas de modèle de société s'il ne peut pas se protéger et s'il n'a pas de défense et d'armée.
Il a raison, notre auditeur, le service militaire n'existe plus depuis 1996, des casernes on en a fermé beaucoup, il y en a beaucoup qui sont partis aussi plus ou moins à l'abandon. Ça donne quand même une idée, et ça rejoint peut-être ce que vous disiez, Romain Mielcarec, ça donne une idée de où on avait laissé l'armée, en fait, et où il faut aller récupérer les morceaux, si je puis dire. Ne serait-ce qu'effectivement pour accueillir, former, nourrir, enfin tout quoi.
Alors effectivement c'est un ensemble, et puis d'avoir des conditions de vie qui soient suffisamment correctes pour que les gens soient pas démotivés au bout de quelques mois. Ça a été un chantier assez important de Florence Parly lorsqu'elle a été ministre des Armées, qui a relancé tout un tas d'investissements pour justement que le quotidien des militaires soit plus acceptable. Et cette question des infrastructures, c'est aussi l'un des aspects qui fait qu'on ne parle pas et on ne parlera pas à moyen terme de mobiliser toute une génération, parce que tout simplement, il n'y a nulle part où les ranger. Donc pourquoi il y a une remontée en puissance qui va se faire progressivement au fil des années? C'est aussi parce qu'il faut trouver des endroits où loger ces jeunes, retrouver aussi de l'encadrement, parce qu'il va falloir pendant les 10 mois où ils seront en train de servir, qu'il y ait des sous-officiers, des officiers qui puissent les encadrer. Et tout ça, ça va demander une évolution de l'organisation. Et c'est pour ça aussi que le premier contingent ne fera que de 3 000 hommes et femmes.
Et femmes, d'ailleurs. Adélie Xulfik Karpazic, de ce que vous avez, vous, travaillé, de ce que vous voyez, et même des derniers sondages, d'ailleurs, est-ce que vous vous dites ça va être facile, 3 000 jeunes gens, ou pas?
Ça semble plutôt facile, alors
Il y a tout le monde qui fait oui avec la tête autour de la table, ils sont tous hyper confiants.
C'est vrai que c'est en lien avec ce que j'évoquais précédemment sur cet engagement et cette fibre patriotique, je peux le dire comme ça, qu'on observe y compris chez les jeunes, de manière générale chez les Français. Et quand on pose la question, on a fait un sondage, alors en amont de l'annonce du président de la République, mais on savait ce qui se tramait, quand on demande aux Français s'ils adhèrent au principe, en tout cas, de la mise en œuvre d'un service militaire volontaire, ils sont 6 sur 10 à y être favorables. les jeunes sont un peu plus partagés, mais ils sont néanmoins, chez les 18-24 ans, 43% y est favorable. Donc 43% des jeunes qui y est favorable, ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes ont l'intention de le faire, mais je pense que 3000 jeunes, on les trouvera. Il y a, il y a une adhésion de principe. Et globalement, d'ailleurs, quand vous prenez un petit peu de recul au-delà de la question du service militaire volontaire, et quand on questionnait justement, déjà au printemps dernier, Ipsos BVA avait posé la question dans d'autres sondages au moment où on parlait de réarmer l'Europe, justement toujours dans ce contexte-là, globalement, les Français en général et les jeunes en particulier sont favorables au rétablissement du service militaire sous une forme ou d'une autre. Donc 3000 jeunes. En plus, il y a une, j'ajoute dans ces d'autres enquêtes qu'on a pu réaliser qu'il y a une bonne image des armées en général chez les Français et chez les jeunes en particulier. Et on voit d'ailleurs que sur les questions de recrutement, globalement, il y a plutôt là aussi une bonne image des métiers de l'armée, qui sont des métiers qui évoluent, qui sont maintenant qui font appel à d'autres compétences, l'IA, etc. Donc je pense qu'on trouvera 3000 jeunes.
Alors c'est intéressant, effectivement, dans votre sondage, celui qui est le plus récent, comme vous dites, puisqu'on savait exactement ce qu'il y avait dans l'air. On voit bien que les 65 ans et plus sont très très élevés quand on leur demande s'ils sont favorables ou pas à un retour de service militaire, même volontaire. Et nous aussi, on en a au standard, forcément. Et c'est votre cas, Stéphane. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Ah, merci. Merci de me recevoir. Oui, donc Stéphane, moi j'ai 63 ans, donc je ne suis pas du tout concerné par les propositions du président Macron. Mais ma suggestion, c'est de pas se limiter à ces jeunes qu'on pourrait former pour augmenter les effectifs de l'armée. Il faudrait faire appel à toutes sortes de compétences, y compris des gens qui sont à la retraite comme moi, pour aider, si possible. Je ne sais pas sous quelle forme, mais je pense qu'il y a un effort à faire. Et moi, j'attends des propositions, je suis prêt à y aller, quoi. Je voudrais juste terminer par deux trucs qui sont bateaux, mais on dit toujours qui veut la paix prépare la guerre, n'est-ce pas ? Tout le monde le connaît. Et puis, il y a l'aphorisme de Winston Churchill qui disait un pays qui oublie son histoire est condamné à la revivre. J'aimerais bien que l'Europe ne revive pas ce qu'elle a vécu il y a 70 ans.
Merci beaucoup pour votre intervention, Stéphane. Ça vous a fait sourire, Jean-Michel Jacques. Et je vous ai surtout vu faire. Ouais, il faut utiliser ces gens-là.
Oui, bien sûr. Et pour monsieur qui souhaite s'engager, et bravo à lui. Déjà, il y a plusieurs formes de réserve. Hein. Notre pays a bien besoin d'une réserve militaire, donc qu'on a élargi lors de la dernière loi de programmation militaire. On a permis d'élargir jusqu'à 72 ans pour les spécialistes style médecin ou chercheur ou qui peuvent apporter beaucoup. Mais donc c'est pour vous dire que l'armée s'ouvre tout de même à toutes sortes de spécialités et à tout âge. Et au-delà de l'armée, il y a des réserves citoyennes dans les communes, différentes formes de réserves. Donc on peut trouver toujours une forme d'engagement pour son pays.
Moi j'aimerais savoir, là on a les chiffres d'Adélaïde Zulfikar-Fasic pour les jeunes. On entend aussi un certain nombre qui sont moins jeunes. J'aimerais savoir jusqu'à quel point nous, dans ce pays, désormais, nous avons intégré le risque élevé de menace ou pas. Vous disiez tout à l'heure, Romain Mielcarec, que ça monte et ça descend. Il y a un moment où effectivement on s'en rend compte parce que, je ne sais pas, il se passe quelque chose de particulier dans l'actualité, peut-être qu'un moment de paix ratée ou de choses comme ça, et puis on oublie et puis on y revient. Mais globalement, aujourd'hui, l'intégration du risque élevé sur une échelle de 1 à 10, il est où en fait, à votre avis ?
Alors, je vais pas me lancer dans du pifomètre, surtout à côté d'une professeure des sondages. Non, moi, je trouve que l'élément qui montre bien la difficulté qu'on a à aborder ces questions-là, c'est les polémiques qu'il y a eu autour du discours du général Mandon, le chef d'état-major des armées, la semaine dernière, où quand il dit il y a une menace russe, s'il y avait un engagement de haute intensité face à une invasion russe, eh bien, nos militaires d'actifs, donc on ne parle pas de gens qui seraient mobilisés, hein. On parle de gens qui sont déjà engagés, y aurait des morts. Et comment la société appréhende ça ? Ce discours-là, il a été dit par tous les chefs d'état-major des différentes armées et par le prédécesseur du général Mandon, le général Burkhard, depuis au moins 2022.
Avec les mêmes mots, vous voulez dire le mot sacrifier vos enfants, parce que c'est ça aussi.
Il n'y a pas eu cette formule précise-là, mais le fond est le même. Alors,
Subitement, on l'entend, c'est ça que vous dites.
Que certains soient interpellés par cette formule, je l'entends. Que des gens, notamment des élus qui travaillent sur ces questions en permanence, soient interpellés, alors que c'est le fond du débat depuis, encore une fois, au moins 3 ans. Mais les militaires travaillent sur ces sujets-là depuis plutôt que ça. Pour moi, ça, c'est quand même un indicateur qu'on a du mal à vraiment discuter de choses qu'on a sous les yeux.
Je vous ai vu réagir, Adélaïde Zulfikar-Pasic, vous allez pouvoir répondre, et j'ai une petite mezzanine à ma question également. Ce serait de vous demander aussi, est-ce que vous calculez ça? On est quand même dans un moment de grosse défiance politique en ce moment en France.
Donc on puisse dire.
Et le sens de ma question, c'est ça. C'est Emmanuel Macron qui le demande, c'est le président de la République. On est dans ce moment de défiance. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça modifie les chiffres? Est-ce qu'on passe au-delà? Ou est-ce que, au contraire, parce qu'on est dans ce moment-là, on a des réponses qui sont totalement différentes de celles que nous aurions eues peut-être il y a 3 ans ou dans 3 ans?
Alors, je...
Vous pouvez d'abord répondre à ce que disait Romain à l'instant, je vous en prie, ou compléter.
J'allais compléter ce que disait Romain, effectivement, à propos de... Parce qu'on a mesuré, effectivement, la réaction des Français à ces déclarations. Certes, ils trouvent que les propos... l'expression « sacrifier nos enfants » était exagérée pour 6 Français sur 10, mais néanmoins, 4 Français sur 10 nous disent que il faut quand même entendre cette menace et que, je reprends la formulation exacte, 41% des Français pensent que c'est utile pour affirmer une posture de fermeté et préparer les esprits. Donc il y a quand même une compréhension des Français de l'enjeu, et donc ça me fait bien de faire le point avec votre mezzanine.
Exactement. Quand c'est Emmanuel Macron qui le demande, en gros, est-ce qu'on entend « j'irai pas mourir pour Macron » veut dire, en fait.
J'ai pas l'impression, parce qu'on voit justement les chiffres de l'adhésion au rétablissement du service militaire, le fait que les gens nous disent « c'est un peu exagéré dans le choix des propos qu'a dit le chef d'état-major, mais néanmoins, il faut s'y préparer ». Donc peut-être qu'on aurait des taux d'adhésion encore plus élevés si ce n'était pas Emmanuel Macron, mais globalement, et d'ailleurs, si on fait un retour en arrière, alors le contexte n'était pas exactement le même. Emmanuel Macron n'avait pas la même popularité, mais avant sa réélection, il avait aussi une popularité relativement faible, je dirais autour de 40% des Français seulement qui avaient une bonne image de lui. Et il y a eu, rappelons-nous, élection présidentielle 2022, quasiment pas de campagne parce que c'était le début de la guerre en Ukraine, et donc il y a eu un espèce d'effet bloc autour du chef d'État, comme c'est souvent le cas. Quand il s'agit de questions internationales, les Français savent faire la part des choses.
Jean-Michel Jacques, et puis retour au standard.
Oui, pour l'expression « nos enfants », il faut bien prendre ce terme, surtout de la bouche d'un militaire.
Nos enfants sacrifiés.
C'est nos enfants sacrifiés, mais
Ils
parlent pas des enfants, ils parlent en fait de militaires, parfois peuvent avoir 40 ans, 50 ans, ça reste les enfants de France.
Mmh. C'est les paroles marseillaises, surtout.
Ouais, exactement.
Voilà, enfants de la patrie. Jean est avec nous, bonsoir Jean.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Jean. 17 ans, Jean.
Comment ?
17 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Okay.
J'ai fait en fait une préparation militaire marine, donc à Lille, et ça se déroulait en fait, c'était un samedi sur deux, un peu plus, un peu moins. Et là, on apprenait vraiment les bases de la marine nationale, mais aussi de l'armée en général, donc c'est-à-dire se déplacer, les valeurs que nous inculque l'armée. Et on a pu aussi faire deux stages, donc une au Sans-Hub à Sisson, donc c'est un camp militaire. Pour apprendre, là, on a eu la chance de pouvoir tirer, de faire des parcours d'obstacles, des cours d'orientation, des marches de nuit, où là, on était vraiment dans une ambiance militaire, de l'armée de terre, puisque c'est un camp de l'armée de terre, où on était en treillis et on marchait au pas. Et aussi à Brest, où on a pu monter sur des navires, on a pu visiter et voir plusieurs corps de la marine nationale.
Et est-ce que ça veut dire, Jean, que le service tel qu'il vient d'être annoncé, c'est exactement pour vous? Ou est-ce que vous êtes déjà, de toute façon, vous, à un niveau supérieur et vous savez que vous allez entrer dans l'armée, en fait?
Alors, je pourrais le faire, mais je suis quand même persuadé que je vais rentrer dans l'armée, plus particulièrement la gendarmerie. Mais oui, effectivement, je pourrais le faire et j'aurais pu le faire si j'avais eu l'âge. Et je pourrais le faire encore s'il était mis.
Merci beaucoup, Jean. Je signale avec la phrase « chance de pouvoir tirer ». Vous avez fait péter le groupe WhatsApp qui s'est mis à exploser comme un sapin de Noël. Merci beaucoup. Est-ce que, au fond, le Jean qu'on entend, Adélaïde Zulfikar-Pasic, il est assez conforme à certains des jeunes gens que vous avez pu croiser au fil de vos sondages, en fait? Ou est-ce que là aussi, on est un peu dans un cran au-dessus, en fait?
Oui, il est peut-être un cran au-dessus parce qu'effectivement, il a passé le stade du déclaratif, si je puis dire. On voit effectivement que ça fait sens avec cette notion à la fois d'engagement pour la France, parce que les notions de patrie et de nation qui sont...
Exactement, et c'est ça qui m'intéresse.
Sont les passéistes,
exactement.
Ne le sont pas, en réalité.
Il y a ces mots-là qui peuvent sembler désuets, la patrie, la nation, etc. Mais moi, je voudrais savoir surtout pourquoi ils s'engagent. Parce qu'en vous lisant, c'est plutôt intéressant. Le mot patrie, le mot nation, il arrive, mais ce qui arrive surtout, c'est le mot collectivité, le mot liberté individuelle. Il y a des mots comme ça, quand même, qui arrivent, et pas seulement, donc, le mot nation et patrie.
Non, et les mots nation et patrie n'arrivent pas en tant que tels, mais en revanche, ce qu'il y a derrière cette nation France. Et d'ailleurs, on parlait de la Marseillaise il y a un instant. On avait questionné les Français et les jeunes sur quels étaient les symboles de la République auxquels ils étaient les plus attachés. Et devant la Marseillaise, devant le drapeau, devant tout autre symbole, c'est d'abord la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et parmi toutes les valeurs qui sont dans cette devise, parmi les trois valeurs, c'est la liberté qui suscite le plus fort attachement, y compris chez les jeunes. Et donc, si les jeunes, effectivement, témoignent de cet engagement qui reflète une certaine idée du patriotisme, c'est parce qu'ils ont envie aussi de défendre ce qu'il y a derrière. Et la France, c'est des libertés individuelles, c'est la démocratie qu'on n'a pas dans certains pays.
Romain Mielcarac.
Juste un mot sur l'enthousiasme peut-être un peu maladroit sur le rapport aux armes, qui peut donner l'impression à beaucoup que les militaires ou les jeunes qui voudraient s'engager...
Moi j'ai entendu un jeune garçon très réfléchi chez Jean, et j'entends bien
peuvent être un peu tout feu, tout flamme. Ouais, ouais. Moi j'ai servi pendant 10 ans dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre, donc j'ai fait de l'instruction au tir, et donc on a des jeunes qui réagissent de plein de manières différentes, qui parfois vont être très enthousiastes, très excités, apeurés face à l'objet. Ce qui est important, c'est de bien avoir en tête que le rôle de l'encadrement et ce que fait l'encadrement lorsqu'il forme des jeunes, c'est de bien expliquer que ce que l'on a entre les mains, ce sont bien des armes, que ce sont des objets, des outils qui sont dangereux, et que la première des choses à avoir en tête, c'est sécurité, responsabilité. Et globalement, on a très vite des armes entre les mains, mais on s'en sert de manière très responsable.
Jean-Michel Jacques, et on retourne
Ce service, et c'est ce qu'ont connu les personnes qui ont fait de la réserve ou qui ont fait leur service dans le passé, c'est aussi un moment d'émancipation, de découverte de soi-même aussi. Typiquement, quand on utilise des armes, il y a toutes ces émotions qui viennent d'être décrites et qu'on surpasse. Et donc, c'est la découverte du collectif, c'est la découverte de valeurs communes, et après, finalement, le patriotisme arrive dans un second plan, mais je crois que la motivation première de tous ces jeunes, c'est l'envie de se découvrir et de découvrir d'autres personnes dans un milieu qui les sort de leur quotidien, et c'est ce qui fait que beaucoup s'engagent, je pense, beaucoup de jeunes vont vers ce genre d'activité parce que c'est l'âge où on a envie de tout ça.
Alors, on est forcément aussi en train de faire peur à beaucoup de gens qui nous écoutent et beaucoup de nos auditeurs, et c'est le cas de Catherine qui est avec nous. Bonsoir, Catherine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, avant de poser ma question, je voudrais quand même dire juste à votre invité, avant qu'il parlait des jeunes qui veulent découvrir, enfin, la guerre, c'est pas un cours d'aquarelle, et on sait bien qu'il y a quand même beaucoup de traumatisés qui en reviennent. Ma question, c'était, on essaye de mobiliser des jeunes pour une éventuelle guerre, ça y est, c'est clair, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer, je pense qu'il serait beaucoup plus investi de les mobiliser pour la paix?
Qu'est-ce qu'on répond? On peut pas dire à Catherine qu'elle a tort. Il vaut mieux mobiliser pour la paix que mobiliser pour la guerre.
Alors, mais en fait, déjà, les jeunes, on les prépare pas à la guerre quand on fait le service national. C'est pas ça. On les prépare à être dans le collectif et à se mobiliser pour défendre notre pays. C'est pas pour aller faire la guerre. C'est pour défendre notre pays. Et par ailleurs, tous ces jeunes, de toute façon, souhaitent la paix aussi. Enfin, tous les gens, vous parlez aux militaires qui sont en activité, ne cherchent pas la guerre. Ils cherchent à défendre leur pays. Donc, c'est un prisme que madame a en se disant un militaire, forcément, c'est fait pour faire la guerre. Non, c'est fait pour défendre la paix. C'est comme d'ailleurs un policier, c'est un gardien de la paix. C'est pas quelqu'un qui va faire du mal à qui que ce soit. Et donc, c'est un prisme qui est respectable, mais qui, je pense, ne représente pas celui de l'ensemble de notre pays.
Ce qu'entend notre auditrice et ce qu'entendent beaucoup de gens qui nous envoient des messages là au standard, c'est ils entendent une espèce de dramatisation des choses. Ça veut dire que est-ce qu'on n'a pas les bons mots? C'est à vous que je vais poser la question, Adèle Zulfikar-Pazik. Est-ce que ça veut dire que on n'a pas, et quand je dis on, c'est aussi ceux des représentants de l'armée, ceux du président de la République, les mots ne sont pas les bons? Ou est-ce qu'au contraire, il faut mettre les mots sur les choses?
C'est difficile de répondre à cette question.
Désolée, c'est compliqué comme question.
J'allais dire. Non, mais en plus, il y a une forme, ce qui peut paraître antinomique, parce que ce que dit l'auditrice et ce qu'on expliquait à l'instant, les deux sont très corrélés. On a à la fois des Français qui sont majoritairement en adéquation avec le principe de retour d'un service militaire volontaire, et en même temps une très large majorité de Français qui nous disent qu'en aucun cas ils veulent qu'on envoie des troupes en Ukraine, ça c'est certain. Donc effectivement, il n'y a pas forcément une perception d'un service militaire comme étant parce qu'on va envoyer nos enfants à la guerre. Donc je voulais aussi le préciser parce que c'est important. Donc les deux peuvent coexister, et effectivement sur le choix des mots, en tout cas quel qu'il soit, il y a un effort de pédagogie. Effectivement, effectivement, expliquer à quoi sert ce service militaire, qu'est-ce qu'on vise comme objectif, c'est important.
Il y a Alain qui nous pose cette question, c'est peut-être pour vous, Romain Miel-Carec, qui nous dit « Depuis de nombreuses années, les médias nous prévenaient que la prochaine guerre serait nucléaire ou ne serait pas. Et maintenant, on recrute quasiment des fantassins, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?» Comment on répond à Alain ?
Eh bien, il faut comprendre à quoi servent les différents outils qui composent finalement un système de défense. C'est-à-dire qu'effectivement, une arme nucléaire et un fantassin, ça ne sert pas à faire la même chose. Mmh. L'arme nucléaire, elle sert à s'assurer que les intérêts, les centres vitaux de la nation ne puissent pas être menacés. Le scénario que tout le monde anticipe si la Russie devait aller plus loin contre les Européens, c'est qu'en fait, ils mettent un pied quelque part dans l'Est de l'Europe, qu'ils n'aillent pas très loin. Et que donc, on ne soit pas sur cette question des intérêts vitaux. Si les Russes occupent quelques dizaines de kilomètres carrés d'Estonie, qu'est-ce qui se passe ? On va pas se mettre à envoyer des armes nucléaires dans tous les sens, pour des kilomètres carrés de plaine où il n'y a rien. Et donc là, la question, c'est comment on fait pour sortir l'envahisseur du terrain où il est. Et les outils en face de ça, c'est pas des armes nucléaires. Les armes nucléaires, elles servent à une chose, c'est s'assurer que si une puissance arrivait jusque dans plusieurs capitales européennes, par exemple, on puisse vraiment lui faire comprendre que ça, c'est pas possible.
Et on le sait d'autant, Jean-Michel Jacques, qu'on la voit, la guerre en Ukraine, je dirais, elle est filmée dans tous les sens, et on voit parfois qu'elle a des allures de guerre de tranchées. Je peux comprendre ce que ça peut provoquer chez les gens, de se dire, est-ce que c'est ça ? Et ça, c'est sale, c'est moche, il y a des jeunes qui meurent, enfin, c'est ça que ça veut dire, la guerre. Faut jamais oublier ce qu'il y a derrière.
Bien sûr, mais ça n'a aucun lien avec notre service national de ce soir, où les jeunes, eux, seront sur le territoire français, ça a bien été précisé, et n'iront en aucun cas sur ce genre de combat. Ça sera réservé à notre armée de professionnels.
Jacques, vous nous attendez depuis un moment, je m'en excuse, et on vous écoute avec plaisir.
Merci de prendre mon appel. Voilà, donc moi j'ai 64 ans, j'ai fait mon service militaire dans les années 80. Je l'ai fait à l'époque en tant qu'aspirant, et à ce titre, je me suis retrouvé à la fin de mon service militaire comme officier de réserve. Au bout d'un an, j'ai été convoqué pour une période de réserve où on m'a dit, ben voilà, vous allez aller à tel endroit qui serait l'endroit où vous seriez affecté en cas de conflit. Donc je rappelle qu'à l'époque, dans les années 80, le système de défense était basé uniquement sur une armée de conscription. Le mur de Berlin n'était pas tombé, donc l'ennemi, c'était la Russie. Je suis allé à Bourg-en-Bresse, nous étions une dizaine de réservistes. On nous a emmenés dans des hangars, on nous a dit bah voilà le matériel dont vous disposeriez en cas de conflit. On s'est tous regardés, on a dit mais ce matériel on l'a jamais utilisé, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, on ne le connaît pas, on ne l'a pas utilisé, on ne saurait rien faire avec. Là-dessus, un de mes collègues a posé la question qui était la cerise sur le gâteau, il a dit vous pouvez me dire où sont les camions pour transporter tout ce matériel ? Et là, le gradé de nous répondre, nous n'avons pas de camion. On ferait appel à la réquisition, c'est-à-dire exactement le schéma de 1939. Donc la question que je pose aujourd'hui, dans un cadre d'armée de conscription, qui était le cas dans les années 80, c'était chronique d'une catastrophe annoncée, il faut bien le dire. On aurait tenu deux jours. Aujourd'hui, c'est bien beau, on dit on va prendre des jeunes, on va les former, mais si vous avez des jeunes formés, que vous n'avez rien derrière, ça sert à quoi ? Enfin, est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité d'avoir toute l'infrastructure pour, en cas de conflit, faire que ces jeunes soient totalement efficaces ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question,
rapidement, Jacques, s'il vous plaît.
Ouais, je suis très surpris parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Ukraine. On est quand même sur des guerres hyper technologiques. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution ne serait pas plutôt d'essayer de quitter tous les bons ingénieurs qu'on a en France pour leur faire rentrer dans l'industrie de l'armement de façon à être performant de ce côté-là ? Est-ce que c'est pas plus utile que des fantassins dont on n'est pas sûr qu'ils aient de quoi se combattre ?
Merci beaucoup.
C'est l'objet de ma question.
Mais on a bien entendu et c'est très clair. Merci, Jacques, Jean-Michel. Jacques, vous voulez répondre et je vous en prie, allez-y.
Oui, madame.
Pardon, il vous reste peu de temps, mais allez-y.
Le témoignage de monsieur illustre bien à quel point il fallait surtout pas refaire un service militaire comme on l'a connu et comme monsieur l'a connu, parce que ça, c'était effectivement, on pouvait se retrouver sur sur un système qui n'avait pas les moyens finalement de faire correctement les choses.
Surtout, moi, toute ma génération a appris à conduire des camions et la belle affaire.
Non, mais voilà,
complètement.
Enfin, alors certains ont passé quand même de bons services et enrichissants, mais effectivement beaucoup ce n'était pas très intéressant. Et donc il est important d'avoir une réserve, comme évoquait monsieur, qui soit bien équipée, qui soit complètement intégrée à l'armée de métier, mais aussi en plus de ça, ce service national qui permettra à nos jeunes d'être correctement équipés et d'avoir vraiment une belle formation. Et donc cette cohérence est très importante.
Dans le sous-texte, si je puis dire, Romain Mielcarex, de la question, c'est à quoi elle ressemble notre armée, ou est-ce qu'il ne faut pas se dépêcher de la rendre un peu plus
première armée d'Europe,
plus efficace qu'elle ne l'est. C'était aussi le sens de la question de Jacques, je pense.
Ouais, alors moi, je partirai pas sur le cocorico, je serai plus nuancé. Mais effectivement, en fait, un outil militaire, c'est très complexe et très diversifié. Et donc un outil militaire, c'est à la fois des pilotes de rafale, des gens qui vont utiliser des drones, des médecins, mais c'est aussi des fantassins, des conducteurs de camions, des mécaniciens et des gens qui portent des caisses. Il faut un peu de tout ça. Et c'est pas forcément avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, y compris en Ukraine, ils n'ont pas mobilisé l'ensemble de la population. Ils sont assez sélectifs, ils essaient surtout d'avoir des gens compétents, déterminés, qui sont prêts à aller remplir des missions qui sont de plus en plus techniques.
Ce que j'ai entendu aussi très très rapidement, s'il vous plaît, ce que j'ai entendu aussi les questionnements, c'est est-ce que nous savons exactement à quoi ressemble notre armée ? C'est plutôt à vous que je vais poser la question, Adèle Zulfikar-Pazic, les jeunes que vous interviewez, est-ce que vous avez l'impression qu'ils savent ce que c'est l'armée ? À quoi ça ressemble ? Où ils mettent les pieds ? Ou est-ce qu'on est dans une espèce d'idée un peu diffuse finalement ?
Je pense que l'idée, elle est assez diffuse. Après, on n'a pas posé de questions aussi précises que ça, mais quand je vois les challenges auxquels fait face notamment l'armée de terre pour recruter, je me réfère à une campagne de communication qui sont faites récemment pour dire l'armée de terre, c'est aussi des métiers comme informaticien, comme donc je pense qu'il y a effectivement peut-être un fantasme, en tout cas un hiatus entre la réalité et l'imaginaire projeté par les jeunes.
Allez, merci les amis, merci à tous les trois, merci à tous pour vos nombreuses questions.